Bien, bonjour à tous. J'ai un infini plaisir à être parmi vous et à vous partager ce texte qui est pour moi un texte inspirant. Je crois qu'il y a des fois Dieu, il nous parle, puis des fois il nous inspire. Merci. Et très souvent, j'ai l'impression que Dieu nous inspire plus que nous parle, mais c'est mon avis. Et ces textes, c'est un texte fondateur qui constamment fait référence, auquel j'essaye de faire constamment référence en me disant c'est juste, c'est faux, je suis dans la bonne route ou pas. Voilà, la pêche. Avant, j'aimerais vous montrer quelque chose parce que c'est en lien aussi à ce que à la prédication. J'aimerais vous montrer un petit PowerPoint de ce qui s'est passé lors du connexion de l'année passée en 2016. Il faut que j'allume l'appareil, ça va mieux aller. Connexion, c'est donc quelque chose qui a été demandé par la pastorale. Le but était de permettre aux gens des églises différentes de faire quelque chose ensemble. Il y avait un deuxième objectif, c'était de permettre aux gens des quartiers de se rencontrer, que l'église puisse être un moyen ou un outil pour des gens de ne pas se faire la guerre ou de vivre chacun de leur côté, mais de se rencontrer. Le troisième connexion recherchée, c'était permettre aux gens des quartiers d'être en connexion, en relation avec les gens d'église. Et la quatrième connexion qu'on recherchait et qu'on recherche, c'est permettre à ces gens d'être connectés à Dieu. Alors, l'après-midi, on a fait, là c'est des photos du premier lieu, on a fait quatre quartiers l'année passée, donc à Nyon, là c'était à Tate, Doigt, Route des Indes. Et là c'était, donc les enfants l'après-midi se réunissaient pour un parcours de stand. Il y avait une inscription. Ils avaient, un des stands était le château gonflable, ça représentait le château du roi, la joie. Il y avait une course au sac. Il y a un mélange d'enfants et de moins enfants là. Le tir à la corde. Dieu aime la force, aime qu'on s'entraide. Tous ces stands avaient un but pédagogique pour permettre à l'enfant d'apprendre quelque chose du Dieu que nous aimons. Fabrique de sucettes aimées, non, c'était pas ça, c'est qu'il devait beaucoup patienter pour avoir la sucette. Donc c'était Dieu est patient envers toi. Il y avait un goûter, on a fait des crêpes à ce lieu-là. Là, il y avait plus de 125 enfants dans ce quartier-là qui sont venus participer à nos activités. On avait fait des stands à part où il y avait des bracelets brésiliens, il y avait du maquillage. Ça, c'était du tir au but version Victor. Corde à sauter, là aussi, on voit qu'il n'y a pas que des gens et des enfants du quartier. Il y a aussi quelques individus suspects en l'air. Et le soir, on invitait les parents à nous rejoindre et on avait fait trois animations musicales sur ce quartier-là. Avec le repas offert, c'était des pâtes. Là aussi, on a été étonnés de l'impact que nous avons. Nous avions prévu 50 adultes. Et au fur et à mesure, on a dû faire une annonce au public, s'il vous plaît, si quelqu'un pourrait nous prêter des paquets de pâtes crues, qu'on puisse les cuire. Et on a servi, je ne sais pas, environ 200 repas. C'était offert et c'était surprenant aussi pour les gens que les églises viennent ensemble offrir ces pâtes et cette sauce. Il ne faut pas oublier la sauce. Voilà, des lieux conviviaux, et on voit aussi sur ces photos que c'était vraiment la table est un objet social où on se rencontre, où on dialogue, on discute, il y a un espace de protection, si jamais l'autre se fâche, il y a au moins une table, on peut se protéger. Mais la table est vraiment un lieu de dialogue, de relation, et comme on voulait des connexions, la table était parfaite. Et vous voyez en bas des connexions entre des gens qui ne se connaissent pas, et Pierre-Alain Vauclair qui est en bas a donné aussi un retour de ce qu'il a pu discuter avec les gens. Voilà, ça je vais le laisser passer parce que je ne vais pas prendre le temps. C'est des retours que j'ai eus, qu'on a eus de cette rencontre. Voilà, ce connexion pour moi est un peu une des concrétisations de ce texte de la pêche miraculeuse. J'aimerais vous montrer en réalité six enseignements que je retiens de ce texte. Je vais les parcourir très vite. Je n'ai pas vu quand je commençais. C'est à quelle heure que je dois m'arrêter?
Les 5, merci.
Six choses que je retiens de ce texte, comme je dis, qui essaye de, dans lequel je m'inspire. Et puis après, Dieu nous dirige quelquefois précisément sur ces points. La première, c'est le Seigneur me confie une tâche. Ok, Seigneur, mais avec quoi? Vous pouvez être appelé à faire du social, vous êtes peut-être appelé à faire de l'évangélisation. Moi, c'est lors d'une période un peu trouble de mon enfance, mon adolescence, que mon père, lors de notre, qu'on appelait ça la confirmation de cathé, fin d'école, m'a fait un diplôme. C'était lui mon pasteur, donc vous voyez, c'est vrai. Et puis il m'a émis ce texte, et là il était gonflé. Tu seras pêcheur d'hommes. Moi qui faisais dessinateur, enfin. Et ce texte, quand j'ai pu le reprendre spirituellement, m'a beaucoup parlé et justement m'a orienté. Et je me suis posé souvent la question, Seigneur, c'est quoi mon filet? Avec quoi je vais faire ça? Tu nous donnes des tâches, alors moi en l'occurrence c'était plutôt l'évangélisation, mais tu nous donnes des tâches, mais avec quoi? Quel est l'objet pour lequel je vais faire? Alors j'ai essayé la pêche à la mouche, la pêche à la gambe, la pêche au bouchon, mais il y a toujours un problème là, vous avez remarqué? Je suis toujours tout seul. Je suis toujours tout seul. Et quand Jésus, la pêche miraculeuse, il y en a eu deux en réalité. Des quatre évangiles en font mention, pas de la pêche, mais de l'appel, tu seras pêcheur d'hommes. Et le premier évangile, Matthieu, parle de la première pêche miraculeuse, c'est un épisode qui va se dérouler tout au début de la mission de Jésus, au moment où il va prendre ses amis de la région d'où il était pour aller dans sa mission. C'est avant ça qu'il dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes, tu viens avec moi. Il va y avoir le cataclysme de la mort de Jésus, et il va se représenter trois fois, et une de ces trois fois, Jésus reprend le même récit, la même circonstance de la pêche miraculeuse, et il vient relancer les disciples dans la nouvelle mission, la nouvelle manière de faire. Ce qui est frappant, c'est que Dieu ne lui dit pas « Tu seras pêcheur d'hommes », il ne dit pas ça à un pêcheur à la ligne, il dit à un pêcheur au filet. Ça voudrait dire que ça ne dépend pas seulement de ses compétences, ou ce n'est pas sur seulement ses compétences qu'il va faire, que Dieu attend une pêche, même miraculeuse. Il s'attend à un groupe, une équipe. Et quel est notre filet? Parce que moi, sincèrement, j'ai pas tellement de talent pour amener quelqu'un à Christ. Je crois finalement, ça m'a amené très très peu souvent. Et souvent, justement, je suis obligé de revenir à Dieu et de dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Avec quoi je peux faire? Et ce filet, qu'est-ce que représente ce filet? Pour moi, ce filet, c'est l'Église. Puisqu'il nous a été encore rappelé dans la prière que c'est là où Dieu ou trois sont rassemblés, que Dieu est au milieu de nous. Très souvent, quand on évangélise ou qu'on veut porter un témoignage, la personne qui vous voit vous. Et elle doit passer au travers de vous pour voir le Dieu qui est derrière. Alors, c'est beaucoup plus simple quand on est plusieurs, puisque Dieu est au milieu. Il suffit de mettre deux chrétiens et puis Dieu est au milieu. C'est une plaisanterie, mais ça exprime bien que Dieu aimerait se démontrer dans nos relations, finalement. Et un filet, c'est vraiment des nœuds qui interagissent les uns avec les autres. Et plus le filet est étroit, plus on pourra choper de poissons. Vous êtes d'accord? Et plus la qualité des liens est solide, plus le filet sera bon. Et je crois que Dieu nous dit que oui, on a chacun une mission, c'est vrai. Nous sommes tous chacun dans son coin sombre, à briller la petite lumière dans nos coins sombres, c'est vrai. Mais à la fois, heureusement qu'il y a cet autre aspect des choses qui est l'Église, qui est une mission portée par tous. Et même si Dieu s'adresse à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes, Dieu le dit à une équipe, puisqu'on voit bien dans les textes qu'ils sont plusieurs, et plusieurs à le suivre. Quel rôle peut avoir l'Église là-dedans? J'aime dire, puisqu'on est en période électorale bientôt finie, qu'il y a des gens qui vivent l'Église comme une Église de droite. C'est-à-dire qu'ils voient en l'Église un lieu, une société qui va leur permettre l'initiative individuelle, qui va soutenir le... Qu'est-ce que j'ai marqué, moi ? J'avais des textes, j'étais très fier de moi, t'as vu ? Ah ben, je n'ai plus pas marqué, c'est pas grave. Mais vous comprenez, hein ? Une société qui a le moins de charges possible, mais qui permet à tous d'exprimer ce qu'il a, le talent, la volonté, son désir, après qui arrive pas, mais la société, l'Église aurait tendance à se mettre à disposition et puis chacun peut faire ce qu'il a appelé de faire. Puis une autre forme, c'est ceux qui s'attendent à une Église de gauche, c'est-à-dire on se met tous ensemble et puis on suit la barque, puis on prend notre tâche là-dedans. Alors est-ce que la frate, on est appelé à être une Église de gauche, Église de droite ? Sincèrement, c'est pas à moi de le dire, c'est pas, j'ai pas forcément un avis là-dessus. Je crois que la société nous montre que au départ, c'était, on est dans un monde où chacun pêchait avec sa barque, puis après il y a eu l'industrialisation, là on a tous mis ensemble, et puis à un moment donné, l'industrialisation a eu ses limites. Et puis les RH actuellement, ils cherchent à se dire comment est-ce qu'on peut valoriser l'initiative personnelle dans une grande société. Donc on est un petit peu dans un remix de toutes ces tensions, ou de toutes ces visions. Je crois que Jésus était précurseur avant l'industrialisation de dire on va y aller ensemble. Et remarquez que lui, il a pris une équipe de 12 personnes, donc 13, sans compter les femmes et les enfants. Donc il y avait une équipe, et chaque fois qu'il lance quelqu'un dans le Nouveau Testament, même Paul, il ne l'envoie jamais vraiment tout seul. S'il l'envoie tout seul, c'est pour rejoindre un autre. Et je crois qu'on est dans une société actuellement tellement individualiste qu'on est encore en train de lire au travers de nos yeux individuels, dire qu'est-ce que Dieu me demande ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Quels seront les fruits qui sortiront de moi ? Alors que finalement, je crois qu'on doit relire ces visions, ces besoins de savoir ce qu'on a à faire dans un contexte quand même, dans un groupe. Et pour moi, le connexion, c'était vraiment tremper le filet dans la population. Permettre à l'Église, même plus grande, hein, enfin l'Église, je ne veux dire pas que la frate, les autres, mais de se tremper dans des quartiers, de se montrer, d'être là dans l'eau. Parce qu'un filet dans la barque, c'est vrai qu'il tient plus longtemps, mais il n'apporte pas de poisson. Deuxième point, je vais aller un peu plus vite, la zone de compétence. Je suis surpris comment Jésus cherche des pêcheurs d'hommes et qu'est-ce qu'il va chercher un pêcheur. Je suis surpris de voir que souvent Dieu vient nous chercher dans notre compétence naturelle. Et ça, essayez de réfléchir au métier que vous faites et qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire. Je connais très bien un monsieur, un ami qui a été photographe. Qu'est-ce qu'il va faire comme évangéliste ? Qu'est-ce qu'il va faire ce gaillard pour Dieu, photographe ? Mais si on analyse un petit peu son parcours, on se rend compte que ce type a une capacité extraordinaire dans un lieu tout à fait commun de mettre en évidence un petit point particulier, comme un photographe. Et puis d'en faire ressortir quelque chose de beau ou d'enseignant. Je crois que nos métiers, nos facultés humaines, Dieu vient les chercher pour les transformer, nous amener à quelque chose. Mais ce qui est très intéressant, ce qui est douloureux aussi, c'est que les deux fois, quand Jésus s'approche de ses pêcheurs, il se met un malin plaisir d'appuyer où ça fait mal. Vous pouvez me donner du poisson ? J'en ai pas. La première pêche miraculeuse, Jésus, il y a toute la foule. Il est sur un bateau, il enseigne, tu as les pêcheurs qui nettoient leurs filets, personne ne voit que du feu, ils sont concentrés sur Jésus. Et Jésus dit aux pêcheurs, venez voir, on va pêcher. Et les pêcheurs disent, devant tout le monde, doivent avouer, je suis incapable. Cette soirée, peut-être que ma famille n'aura pas à manger, je n'ai pas chopé de poisson. Et dans la deuxième circonstance, le deuxième texte de la pêche miraculeuse, là, dans un autre contexte, les disciples doivent avouer qu'ils n'ont pas de poisson pour le petit déjeuner sur la plage. Ouais. C'est particulier. Pourquoi Dieu a besoin de nous amener à nos limites pour ensuite nous donner du poisson ? Je ne sais pas. En tout cas, le résultat de nos compétences, bien que Dieu, on peut y rechercher la main de Dieu, il ne faut pas forcément y trouver beaucoup de résultats. Troisième point, changement de fonctionnement. C'est peut-être le point que j'aimerais partager un peu plus avec vous. Alors, imaginez que vous êtes un jeune qui commence, qui débute, vous venez de vous marier, Et puis il y a votre beau-père qui est pêcheur. Je ne sais pas si c'était le beau-père ou le père, hein, je ne sais rien. Mais il dit, voilà, maintenant que tu es marié, je t'offre une barque, tu vas être pêcheur. Et ça veut dire que le type, il n'y a pas la retraite, il va pêcher jusqu'à sa mort. Alors imaginez qu'il reçoit la barque, il va bien se dire comment je vais organiser ma barque. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que pour pêcher, bon, mais je vais mettre le filet de ce côté-là, d'accord? Et puis de l'autre côté, alors si je tire le filet, je mets le bac où les poissons viennent là, et le... Ah, ça n'a pas de sens de mettre la boîte pour le filet, je le mets là. Il va organiser sa barque, vous êtes d'accord? De même, quand il va lancer quelquefois le filet, puis qu'il l'a perdu parce qu'il l'avait lâché, il va se dire, tant, je fais un trou, je passe la corde dans le trou, j'y fais un nœud, comme ça, si jamais je lâche le filet, au moins, mon filet, il ne tombe pas, je peux le récupérer. Autrement dit, il s'aménage pour mieux travailler. On fait tout ça. Ça s'appelle l'ergonomie en bureau. Et on le fait aussi dans notre cuisine, dans notre vie. C'est normal. Alors imaginez notre cher pêcheur qui est organisé de manière à ce qu'à trois ou quatre, il lance le filet. Il y en a un qui conduit derrière. Il y a celui avec la corde là qui tient la voile, qui lâche. Et Jésus leur dit, jetez le filet de l'autre côté. Ça pose un problème parce qu'il n'y a pas le trou. Si je tire le filet, mon poisson, c'est là. Il est complètement désorganisé. Il est complètement déboussolé. Il ne peut plus, il ne peut déjà pas faire valoir sa compétence, son expérience, mais il est complètement à côté de ses baskets. S'il fait ça, c'est un détail, à droite, à gauche. D'abord, qui est ce Jésus qui dit pas tribord et bâbord? Il dit à droite. Quelle droite? Moi, je serais plutôt à dire quelle droite. Mais ça les bouleverse dans leurs habitudes. Et ce n'est pas anodin pour eux, c'est une complication. On cherche souvent un Dieu qui nous facilite les choses. Or là, Jésus leur a compliqué les choses. On trouve ça dans la même pêche, la pêche du départ, notre manière. Quand Jésus leur dit la première fois, il leur dit « Allez en eau profonde ». Mais on n'est pas équipé pour les eaux profondes. Nous, on a un filet qui traîne, on est à 200 mètres du bord, donc on a un filet qu'on traîne et puis on prend. Mais on va rien ramasser en plein eau, on n'a pas les cordes. Jésus leur dit, allez en eau profonde. Ce qui m'amène à accepter quelquefois les changements de fonctionnement, les choses qui nous bouleversent, et ce n'est pas évident. Je vous donne un exemple pour connexion. On se réunit, toutes les responsables d'église, et on dit quelles sont les dates qui vont nous aller pour faire l'animation. Alors on se fixe des dates où à peu près toutes les églises peuvent être là. Et quand il s'agissait de rencontrer des gens de quartier, puis nous dire, alors les gens du quartier, non, ça ne va pas aller cette date parce qu'on a déjà une animation là. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé avec des dates pour les églises qui correspondaient aux gens d'église, et puis d'autres dates qui correspondaient aux gens de quartier. On va faire quoi, Seigneur? Et c'est assez souvent, finalement, Dieu nous invite à nous dire, mais écoute, tu ne dois pas regarder les choses au travers de toi-même, de ta capacité, de ta liberté. Tu dois regarder en fonction du poisson où il est, et de ses besoins, et de ce que tu veux atteindre. Et ça nous amène souvent à devoir abandonner nos habitudes, nos fonctionnements, nos grandes compétences, le trou pour tirer la corde, et ainsi de suite. Ces changements de fonctionnement, déjà qu'on a commencé mal l'histoire parce qu'on était incompétent sur notre domaine de compétences, on n'avait pas de poisson, arrivent à un paroxysme, à un point culminant que j'aime bien, moi. C'est notre ami Pierre. Alors Pierre, c'est un type exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Imaginez, un type qui va à la piscine. C'est l'été, short, t-shirt, schlappe de plage, il arrive à la piscine. Tac. Excellent, il est prêt, c'est l'été. Il enlève son t-shirt, il met une chemise, une cravate, met des godillots et il plonge dans l'eau. C'est à peu près ce qu'a fait Pierre. Il était nu. Pour aller dans l'eau, c'est peut-être mieux. Et lui, il s'habille et il plonge dans l'eau. C'est irrationnel. Vous êtes d'accord? c'est, excusez-moi, stupide. Ça ne va pas l'aider à avoir plus de poissons. Mais des fois, on est comme ça. Je me rappelle d'un récit, je crois que je vais déjà une fois raconter. Mon père faisait faisait la collecte à l'armée de salut, et avec un collègue, ils ont été dans un village, et tout d'un coup, au loin, ils ont vu quelque chose, de la fumée, du feu. Alors ils ont pris la voiture, ils ont été voir, c'était une ferme qui brûlait. Et après un petit moment, ils se sont dit, il y a quelque chose qui cloche. Les gens, ils jetaient la vaisselle par la fenêtre et ils descendaient les duvets. Il y a quelque chose qui cloche. Mais j'ai l'impression que quand Dieu nous invite à sortir nous-mêmes, sortir de nos zones de confort, immanquablement, on va se retrouver dans une situation comme ça. On n'est pas meilleur que Pierre. Mais est-ce qu'on doit en avoir honte? Est-ce qu'on doit essayer de dire, non, il faut que je garde le contrôle? Est-ce qu'il faut dire, non, c'est trop dangereux, là, je ne veux pas y arriver? Et ça va plus loin que moi, ça va me mettre hors de moi. Mes amis, la Pentecôte, c'était l'histoire d'un peuple, d'un groupe qui a accepté que le Saint-Esprit les rejoigne et qui les a mis hors d'eux-mêmes. Vous avez déjà été hors de vous-même? Des fois, la colère fait ça de nous. Mais des fois, la tristesse fait ça de nous. La joie fait ça de nous. Regardez le public dans les stades. J'imaginais qu'ils vont tous les jours comme ça au travail. Non. Il y a des émotions qui nous mettent hors nous-mêmes. Où ils se contrôlent plus. On se contrôle plus. Et si on désire contrôler notre vie, ça ne va pas le faire. Dieu, il va respecter ça. Mais on ne va pas avoir une pêche miraculeuse dans nos vies. Conséquences sur nous. Est-ce que je suis prêt à les accepter? Est-ce que je suis prêt à enlever ma veste sociale, le regard que les autres portent sur moi-même, et puis devenir autrement? Être un peu nu, puis m'habiller, puis savoir où j'en suis. C'est la femme de Pierre qui devait être contente. Hein. Enfin. J'arrive au point 5. Je suis surpris que Dieu respecte la limite. Pourquoi? Moi, si j'avais été Dieu, on peut peut-être des fois dire comme ça, mais moi, si j'avais été Dieu, pour vraiment appuyer le truc là, quand j'aurais provoqué la pêche miraculeuse, la première, le filet, il n'aurait pas résisté, hein, moi. J'aurais enfoncé le clou. Mais le filet, il a résisté. Il y avait deux barques, et ils ont réussi à deux barques à amener la totalité des poissons. Il n'y avait pas de trop. Juste ce pourquoi ils étaient préparés et prêts. Nous retrouvons la même chose dans la deuxième pêche miraculeuse. Ils vont réussir à ce que le filet ne rompt pas. C'est comme si Dieu avait déjà prévu que Pierre, ils sont à l'eau, puis qu'ils n'étaient plus que les, je ne sais pas combien, sur le bateau, un moins en tout cas, pour tirer le filet. Mais le texte nous souligne, le filet ne rompt pas. Qu'est-ce qu'on s'en fiche du filet, c'est de la corde. Non. On ne s'en fiche pas. Un, parce que c'est l'Église. Et puis deux, parce que ça nous dit que même en prenant ces risques, Dieu, il sait où est la limite. Mais permettez-moi de tourner dans l'autre sens. Dieu ne fait pas plus que notre limite. Je crois que en termes de relation avec Dieu, en termes de réceptacle à ce que Dieu veut nous faire vivre, Dieu veut nous donner, de donner aux autres, il fait en fonction de la capacité qu'on lui donne. On retrouve ça dans le texte où il y a cette veuve d'un prophète qui va vers un autre prophète parce qu'elle a des dettes, puis elle va devoir vendre ses enfants. Et le prophète lui dit, tu as un petit peu d'huile, ok, alors va chercher tout ce que tu trouves déjà chez tes voisins, tu les rempliras avec ta petite fiole d'huile, alors c'est un miracle, et puis après tu le vendras. Ce que tu récolteras comme argent, on payera tes dettes, et le restera pour toi. Cette femme va chercher tout ce qu'il y a autour, acte de foi. Mais vous savez qu'au moment où ils ont présenté le dernier récipient, au moment où le récipient était plein, l'huile s'est arrêtée, la bénédiction s'est arrêtée. Et ce texte est fondamental. Il nous montre aussi que les filets, on aura dans nos filets pour lequel le filet résistera, mais jusqu'au maximum. Mais Dieu prend à la fois soin de la qualité de nos églises, de nos relations, de nous-mêmes. Il n'ira pas ce que lui, mais il aimerait le remplir à ras-bord, mais pas plus que ce qu'on lui présentera. On peut imaginer un pessimiste mettre le filet et dire « bon ben je mets un dixième de mon filet ». Ben il aurait eu qu'un dixième de la pêche miraculeuse. 153, 15,3, bon disons 16. Mais c'est ça. Et on doit se poser la question en tant qu'Église, en tant qu'individu aussi. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre dans la... ouvrir? Qu'est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce que je donne à Dieu pour qu'il puisse remplir mes filets? Et puis la dernière constatation que je fais sur ces textes, c'est l'inutilité de nos efforts. Parce que les deux fois, les poissons si bien recueillis, vous imaginez la bamboula qu'ils auraient pu faire, hein, 3 semaines avec autant de poissons, enfin j'en sais rien, mais c'est resté sur le quai, les deux fois. La première fois, Satan nous a dit qu'ils ont recueilli, et puis Jésus lui a dit, venez, et ils viennent. Il nous a dit, il y a une immédiateté qui nous fait penser que ben, ils ont amené ce poisson. Alors, le premier miracle, c'était pour Jésus l'a provoqué, l'a fait de manière à démontrer que ce qu'il avait enseigné sur la barque, Dieu l'attestait. Mais ces poissons donc avaient rempli leur fonction, ils attestaient que Jésus était Dieu et qu'il avait dit quelque chose du ciel, mais ils sont restés à plein. Et la deuxième pêche miraculeuse, ben, c'était complètement inutile puisque Jésus avait préparé le déjeuner. Imaginez votre femme, messieurs, qui vous dit « va voir chercher les croissants ce matin ». Puis quand vous venez, il y a une tresse. Qu'est-ce que vous allez dire là, messieurs? Les croissants, ce n'était pas le but. Hein. C'était que je parte. Et quelquefois, c'est ça, messieurs, dames. Ce que Dieu nous invite à faire, l'objectif en lui-même de Dieu, c'est pas ça. Il recherche autre chose. Quand Jésus est descendu sur Jérusalem avant sa crucifixion, quand les gens, les pharisiens voulaient faire arrêter ses disciples de crier, alors qu'on comprend que c'est l'Esprit Saint qui les avait saisis, encore une fois, et puis qui faisait ce qu'ils n'auraient jamais fait, c'est crier Hosanna, Jésus va dire, mais si, c'est les pierres qui crient. Autrement dit, ils sont pour rien. Ils crient ou ils ne crient pas, de toute façon, ça criera. Et notre travail, il y a aussi un texte qui dit, vous êtes des serviteurs inutiles. Ça nous apprend à dire, mais finalement, Seigneur, tu veux quoi? Et moi, j'en arrive à cette conclusion, elle est personnelle. J'ai l'impression que Dieu me dit, il y a des œuvres que j'aimerais faire avec toi. Qu'elles réussissent, qu'elles ne réussissent pas, que tu arrives au bout de la montagne, que tu t'arrêtes en milieu. Finalement, je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant. Moi, ce que je veux, Dieu, c'est toi. Et je vais aller un peu plus pointu encore. Je crois que l'œuvre de Dieu, c'est nous. Ce qu'on fait sur terre, au travers des ministères, au travers de l'Église, au travers de nos témoignages, au travers de nos œuvres sociales, j'en sais rien, c'est des choses qui vont périr, qui vont passer, et il faut faire le deuil là-dessus. Il faut faire le deuil là-dessus. Par contre, ce que Dieu veut garder et ce qu'il construit, ce qui va repartir dans l'autre monde, le monde céleste, c'est notre cœur. Et ça nous permet d'aborder finalement toutes nos activités dans l'autre œil. Oui, on doit chercher la pertinence, on doit chercher d'atteindre notre objectif. Oui, 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 et cette recherche doit nous aider à rechercher Dieu et notre relation avec lui. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est vous, c'est moi. Jésus aux noces de Cana, je finirai avec ça. Jésus aux noces de Cana a fait la même chose qu'à Connexion. Il a pris ses disciples et il a été trempé dans une fête. Il ne les a pas invités les gens à venir à sa fête. Il n'a pas fait un mariage ou une célébration de bar mitzvah ou je ne sais pas quoi. Il est allé au mariage des autres. Et je crois que c'est ce que nous avons à faire, à aller vers les autres. Jésus, lorsqu'on lui a demandé, on lui a fait montrer qu'il manquait de la joie, le vin, c'est la joie. lorsqu'on n'est plus dans une dynamique pour laquelle on est venu. Jésus a eu une parole, enfin c'est pas Jésus, excusez-moi, c'est sa mère qui a eu une parole exceptionnelle, qui a été vers les serviteurs puis dit, faites tout ce qu'il vous dit. Faites tout ce qu'il vous dit, il dira. Pour moi, c'est une clé. Il y a des choses qui nous inspirent, et puis dans ce que Dieu nous inspirait, les textes où on fait, et puis à un moment donné, Dieu nous dit quelque chose. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est quelque chose qui nous aide à sortir du droite-gauche, qui nous sorte, c'est attendre à ce que Dieu nous parle. C'est intéressant aussi la comparaison, c'est que Jésus a fait remplir non pas des petits... il n'a pas présenté son verre, puis vous pouvez déjà remplir ça, celui-là, ou bien les cruches, non, c'était vraiment des gros récipients. Ils n'étaient pas faits pour ça. Vous voyez le fait du filet, hein, gauche-droite, ils n'étaient pas faits pour ça. Mais c'est au travers de ça qu'il a changé l'eau en vin. Il a constamment bousculé dans les habitudes. On est des êtres qui nous habituons aux choses. Et le volume de vin a été en fonction à la hauteur de la volume d'eau qu'ils ont mis dans ces récipients. Alors j'aimerais vous inviter à réfléchir en quoi l'Église est pour vous votre filet. Comment vous soignez, on soigne nos relations les uns avec les autres. Et surtout, cette relation, est-ce que je suis prêt à la mettre dans l'eau de la société? Est-ce que je suis prêt à mettre mes relations d'église, de chrétien entre chrétiens, dans l'eau? Zone de compétences et résultats, est-ce que je suis prêt à ce que Dieu vienne me chercher dans mes compétences, mais aussi dans mes incompétences, pour le sublimer, faire quelque chose de particulier, y donner un sens nouveau? Changement de fonctionnement, est-ce que je suis prêt à ne pas partir sur mes habitudes? Est-ce que je suis prêt à écouter la parole de Dieu pour aller ailleurs? Il y a une parole très forte qui dit ça dans la première pêche, où Pierre dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et je crois que nous sommes à nous laisser inspirer par ces textes et à attendre la parole de Dieu qui nous dira à droite ou gauche. Très souvent, il dira là où on n'a pas organisé les choses. Mais il est capable de créer ce qui est incapable, que nos habitudes n'ont pas l'habitude de nous donner. Conséquence sur nous, est-ce qu'on est OK pour lâcher notre belle sérénité de Suisse et de Suissesse? Est-ce que je suis prêt à être hors de moi? Est-ce que je suis prêt à mettre une plus grande mesure vide pour que Dieu puisse le remplir? Plus grande part émotionnelle, plus grande part organisationnelle à la disposition de mon filet, de l'Église, de Dieu. Parce qu'au final, c'est Dieu, hein, le filet. Hein. C'est le pêcheur qui a le filet. Hein. Le filet en lui-même, il appartient à personne. Et l'inutilité de nos efforts nous permettent d'être... Est-ce qu'on est prêt à se mettre dans un autre rapport avec la réussite? Un autre rapport avec les objectifs? Est-ce qu'on est prêt à, soir après soir, à nous retourner sur nous-mêmes et à chercher en nous l'œuvre que Dieu voulait faire au travers des expériences dans lesquelles il nous a amenés? Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu as été le premier à inventer l'Église. Et tu as été le premier à nous inviter à nous mettre à l'eau. Tu as été le premier à nous envoyer aller. Tu as été le premier à croire au filet. Tu as été celui qui savait la limite du filet et qui l'a respecté. Seigneur, nous te demandons de nous permettre en tant qu'Église, d'abord en tant qu'individu, à nous mélanger, à faire partie de ces maillons, de ces nœuds relationnels. Et nous te demandons, Seigneur, de permettre à notre Église, à nos Églises, d'être plus souvent en tant que telles, au milieu, dans la foule, en tant qu'Église. Nous te demandons, Seigneur, de faire parole vraie ce que tu as dit que tu étais au milieu de nous. et que les gens verront que nous sommes tes disciples si nous nous aimons les uns les autres. Permets-nous, Seigneur, d'être relancés par une nouvelle pêche, s'il te plaît. Merci pour ta bénédiction individuelle et sur cette communauté. Amen.